Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à tous, même si vous n'êtes pas encore tous là, semble-t-il. Donc pour cette table ronde sur le corps sur une puce. Vous êtes sûrement venu parce que, par curiosité, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corps sur une puce? En fait, tout se résume par une question de microfluidique, une science qui date des années 80 et qui, peut-être comme moi, vous n'aviez jamais entendu parler jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est une science qui, en fait, nous entoure quotidiennement, ne serait-ce que par nos imprimantes à jet d'encre. Donc c'est une science des fluides qui consiste à faire passer des fluides dans des tout petits canaux capillaires. Dès que je dis une bêtise, hein, mes deux amis scientifiques me jetteront un truc pour me faire taire, hein, j'ai confiance. Ça consiste donc à faire passer ces fluides dans des tout petits capillaires taille microscopique, de façon à contrôler les diamètres de gouttes, les types de molécules qui passent, etc. Et qu'on peut brancher à des capteurs pour des applications qui, franchement, sont extrêmement proches de la science-fiction, mais qui sont actuelles. Et j'ai vraiment découvert un univers, j'espère vous faire découvrir avec eux tout de suite. Alors, pour parler de tout ça, j'ai trois invités. Alors, notre caution littéraire, Jim C. Hines, qui est donc auteur américain, auteur notamment, alors vous allez trouver ça bizarre, mais d'ouvrages de fantasy, ce qui est relativement éloigné du sujet, mais vous allez voir, on va se raccrocher aux branches, ça va très bien se passer. Donc, il est auteur de Goblin Quest aux éditions de la Talente, ainsi que Magie Ex Libris, hein, aux mêmes éditions, vous pourrez lui faire dédicacer. Vous avez une dédicace juste après ou c'est pour demain? Pas de dédicace prévue là, c'est un peu tard. Il sait pas, c'est pas grave. Non, ce soir c'est... D'accord, c'est pour demain. Revenez demain, il y en a plein. Et la série Princess chez Castlemore. Vous êtes aussi très connu pour ça, qui est un des petits pastiches de couverture. Donc l'original est à votre droite, Monsieur Hines est à notre gauche. Hein. J'aime beaucoup le titre. Donc il en a commis un certain nombre. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, c'est vraiment sympa. Et ce qui a fait quand même de lui une star mondiale de la cause féministe, entre autres. Et puis du bon goût des couvertures, ce qui gâche rien. Bon, on va arrêter de vous torturer avec ça, les erreurs de jeunesse, ça arrive. Oui.
I like that when the picture came up that you had to specify the original is on the right.
Ouais, j'ai préféré au cas où, pas d'ambiguïté, vous voyez. Alors par contre, vous avez publié aux États-Unis une série qui est beaucoup plus proche de notre sujet. Alors, si vous pouviez présenter au public rapidement votre nouvelle œuvre qu'on attend impatiemment en France, avec les micros.
The new books, and no, they're not in France yet, but I think my publisher is in the audience somewhere. It is called Janitors of the Post-Apocalypse, and it's set after the zombie apocalypse, and then the aliens arrive. And they find this planet full of zombies, and they decide to fix us. Because zombies would make really good space marines. So the books are set about 100 years later. You have these humans that are sort of fixed, sort of still zombies. They're sort of a hybrid at this point. And just to make things more interesting, the books are about the janitorial staff on the starship. So, space janitor zombies.
Ok. Alors, juste un petit doute technique. On n'est pas censé avoir un traducteur, semble-t-il. Bien. Ok. Donc, on va devoir refaire une traduction express manuelle. Toi qui es très très fort en anglais, Maxime, tu peux peut-être t'y coller. Hein, ouais. C'est de l'artisanal hein, ce soir. Hein, je suis désolé.
I can hear it.
Ok. Je vais résumer. Hein. Pour les prochaines, c'est toi qui t'y colle. Okay. Alors, pour résumer, donc, c'est un ouvrage sur une apocalypse zombie qui est ensuite... vas-y.
They've got the headsets so they can hear the translation.
Ouais.
My translator is telling me they can hear it and get it in English.
Ah, parfait.
Or get it in French.
Ah, d'accord. Bah, j'attendais la traduction en français, en fait, moi, tout bêtement. Hein. Non ? Tout le monde les a ? Bon, allez hop, on oublie, on continue, parce que sinon on va y passer la nuit. Désolé. Alors, juste pour vous préciser, c'est la première fois que j'anime une table ronde. D'habitude, je parle tout seul pour dire des bêtises, c'est plus facile. Là, il faut que je guide des gens, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, un livre tout à fait dans le genre de ce qui nous occupe, vous verrez. Alors, pour parler plutôt de l'aspect scientifique, mais finalement, c'est peut-être eux qui nous feront le plus de science-fiction. J'ai d'abord Maxime, dont j'ai évidemment oublié de regarder le nom complet, sinon c'est pas drôle. Oui, Maxime Mahé, excuse-moi. Ah, merci. Il manquait quelque chose. Maxime Mahé, donc tu es chercheur à l'INSERM. Alors, tu as une petite fiche sur le site des Utopiales qui est très intéressante, car outre le fait qu'elle indique que tu travailles au laboratoire neuropathie du système nerveux entérique et pathologie digestive, elle indique aussi que tu fabriques des organoïdes intestinaux. Alors, c'est sans doute pour ça que tu as été invité. Ça a l'air extrêmement sympa. Pour résumer, en gros, tu fabriques des organes avec des cellules souches et après, tu les rends malades, quelque chose comme ça.
Tout à fait. Ouais. Le principe, c'est de recréer des organes dans des boîtes de culture, donc de miniaturiser des organes à partir de cellules souches. Et nous, on est spécialisés justement sur la fabrication du système gastro-intestinal, donc qui inclut l'intestin. Et on a tous ces petits mini-organes pour les étudier dans le laboratoire afin de comprendre les pathologies digestives.
Ah, d'accord. Et donc, enfin, ces organoïdes, c'est produit par microfluidique ou tu utilises la microfluidique ensuite? C'est un peu ça que...
C'est exactement ça, oui. Alors, l'idée, en fait, on est capable de générer ces organoïdes en différenciant des cellules souches. Donc, on va pouvoir recréer un organe à partir de zéro, si je puis dire. Et ensuite, on va chercher à fonctionnaliser ces organes en les ajoutant dans des systèmes microfluidiques pour pouvoir avoir un système dynamique, en fait.
D'accord. On parlera des applications par la suite. Ensuite, j'ai Karim Sitayeb, que vous avez peut-être déjà vu aussi sur cette scène il n'y a pas très longtemps, donc chercheur à l'Institut du Thorax de Nantes, et ancien chercheur à l'INSERM, ou c'est encore lié à l'INSERM ? Pense au micro.
L'Institut est lié à l'INSERM, oui.
D'accord. Pareil, sur ta fiche du site... on voit utilisation des cellules souches pluripotentes induites humaines, ou IPS. J'aime bien IPS.
IPS.
Voilà, IPS, c'est pluri... Mais IPS, ça, je trouve ça plus sympa. Pour comprendre le développement du foie et des maladies métaboliques. Alors, j'ai une question de Béotien Total. Le rapport entre le foie et le thorax, je ne le situais pas exactement là, en fait, au départ.
En fait, on travaille sur une maladie métabolique qui est liée au cholestérol et qui touche le système cardiovasculaire. La circulation et des maladies au niveau cardiaque.
D'accord. Toi aussi, tu utilises des cellules souches et des technologies...
En fait, on part de la même base avec Maxime. On utilise des cellules souches. Donc, les cellules souches IPS ont la faculté d'être issues de personnes qui pourraient avoir un intérêt parce qu'elles portent des mutations intéressantes pour l'étude d'une maladie. On peut prendre des cellules de cette personne et faire revenir à l'état de cellules souches. Donc, on a des cellules IPS. Et ensuite, on va pousser ces cellules vers un type cellulaire en particulier. Donc, Maxime travaille sur le côté intestinal. Nous, on les pousse vers le foie.
D'accord. Alors, c'est des cellules de foie mises à plat et on joue avec ou on essaye vraiment de reconstituer ?
Non. Pour l'instant, nous, le modèle qu'on a, c'est des modèles en deux dimensions, donc qui sont posés sur un fond en plastique dans des boîtes de culture. On sait que ces cellules ne sont pas aussi matures que pourraient être des cellules dans le foie. Donc, on essaye de mettre en place un système en trois dimensions. Et la quatrième dimension serait le flux. Parce que dans le foie, donc, il y a de la circulation. Le foie va avoir un système circulatoire très développé parce qu'il va être à l'origine de la détoxification du sang une fois qu'il a passé l'intestin. Et on a besoin en fait de ce flux pour améliorer les fonctions hépatiques et avoir un modèle encore plus pertinent pour l'étude de maladie.
D'accord. C'est, on est encore au, enfin, c'est de la recherche fondamentale encore ou il y a des applications en vue?
Alors, c'est de la recherche fondamentale avec des applications pour l'instant très orientées pharmacologie. Donc, il y a le côté comprendre comment ça marche et essayer d'identifier le gain en fonctionnalité dans ce type de système. Et ensuite, essayer de faire ça vraiment à la chaîne de façon très miniaturisée, systématique, standardisée pour pouvoir tester des médicaments, par exemple.
D'accord. Juste pour parler un peu d'actualité avant de passer, vaut mieux s'ancrer dans le présent avant de parler un peu de futur. La société Theranos, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette start-up américaine qui promettait de faire des analyses sanguines juste en posant le pouce sur un capteur, basait toute sa, tout son système sur des systèmes microfluidiques. Vous en avez entendu parler, vous avez peut-être un commentaire là-dessus c'est parce que, bon, évidemment, dès qu'on a une nouvelle technologie qui apparaît, il y a toujours un charlatan qui vient l'exploiter. Donc...
Non, après, il y a, je pense que je pense que c'est les tests même qui ont été mis en question pour la validité scientifique et l'application en termes d'exploitation en tant que start-up. Je ne pense pas que ce soit le système microfluidique en soi, parce que lui, c'est vraiment un outil, en fait, pour amener le sang ou les molécules vers les senseurs pour faire les mesures. Donc c'est un peu différent de ce qu'on essaie de faire avec le côté organ on chip ou body on chip ou corps sur une puce.
D'accord. Par contre, du coup, toutes ces cultures d'organes pour l'instant en 2D, donc cette orientation pharmacologique, bah, c'est une première étape, je suppose. Ça a commencé quand ces recherches?
Alors, les recherches pharmacologiques, ça fait des années, des décennies hein, qu'elles sont utilisées donc, sur des modèles plus ancestraux, si je puis dire, hein, qui sont de la culture qu'on appelle en deux dimensions, donc avec des cellules que l'on appelle immortalisées. En général, ce sont des cellules qui proviennent de cancers, qu'on arrive à reproduire en culture. On les utilise comme modèles de screening thérapeutique pour évaluer l'efficacité d'une drogue. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on arrive à voir l'émergence de ces technologies que l'on appelle organoïdes, qui veulent tout simplement dire la création d'un mini-organe qui représente la fonction du tissu que l'on veut. Et donc ça évolue à tel point qu'on va peut-être bientôt enlever ces cultures en deux dimensions, passer sur de la trois dimensions, et l'étape prochaine, c'est justement tout agencer en microfluidique pour avoir un système en trois dimensions qui soit perfusé, qui soit dynamique, dans lequel on peut regarder en temps réel ce qui s'y passe.
Là, on commence à approcher de la science-fiction, là. Mais du coup, là, ça fonctionnera en imprimante 3D. Enfin, c'est par imprimante 3D. Enfin, il faut une structure pour. C'est pas en superposant bêtement des couches 2D qu'on va réussir à le faire, je suppose.
Alors, il y a différentes façons. La première façon, alors, en ce qui concerne nous, nos activités, c'est qu'on utilise la capacité de ces cellules à savoir. Enfin, leur capacité d'auto-assemblage. C'est-à-dire que ces cellules sont capables de bouger d'une certaine manière et de s'assembler d'une certaine manière. Bien évidemment, on est obligé de leur donner une matrice. Donc c'est un gel, au final, dans lequel ces cellules vont évoluer en trois dimensions. Mais comme vous l'indiquez, cette géométrie, elle n'est pas forcément parfaite. Et on doit trouver aussi des alternatives pour donner une géométrie particulière. Donc effectivement, il y a d'autres approches qu'on peut envisager, comme l'impression en trois dimensions, ou créer des systèmes comme les systèmes microfluidiques dans lesquels on va séquestrer ces mini-organes pour pouvoir les étudier.
D'accord, donc un foie reconstruit et fonctionnel, c'est pas totalement impensable.
Non, bah, l'idée c'est d'essayer d'avoir... En fait, nous ce qu'on fait quand on veut étudier le foie, c'est qu'on va conduire les cellules pour devenir des cellules de foie, qu'on appelle des hépatocytes. Sauf que le foie, c'est plein de cellules différentes. Et donc, si on veut vraiment commencer à avoir un modèle qui soit plus pertinent pour l'étude d'une pathologie ou proche de l'humain ou de l'organe, il faut essayer de mettre ces types cellulaires ensemble pour qu'ils puissent communiquer, interagir, trouver leur balance et ensuite avoir ce système de flux comme on peut le voir à l'écran où là on a un liquide qui passe et qui va amener une espèce de stress pour de tension en fait qui va avoir une espèce de composante physique pour parce que l'organe se forme comme ça parce que c'est vraiment basé sur ce qu'on connaît aussi de l'étude de l'embryologie, de la biologie du développement, et d'avoir des fonctionnalités qu'on puisse mesurer par la suite. Et donc là, il y a l'organe en chip ou l'organe sur une puce. On se focalise sur un type d'organe sur une puce. L'idée ensuite, c'est de pouvoir les connecter entre eux, donc avoir donc des puces avec plusieurs puits. Donc c'est pas le cas dans celle-là, mais dans ceux qu'on a vu avant. Et ces puits vont être, donc un puits va avoir des cellules un organoïde de foie, l'autre un organoïde intestinal, l'autre peut avoir un organoïde pancréatique, du mini brain, du mini cerveau, et le tout peut être connecté. Et donc voir comment un organe va influencer l'autre organe, qui en réponse va influencer un autre organe, et donc avoir un système intégré. Qui, en fait, l'idée à moyen terme, ce serait d'essayer de diminuer l'utilisation, par exemple, des modèles animaux. Donc on ne pourra pas complètement s'affranchir des modèles animaux en biologie pour étudier la physiologie, mais ce type de modèle pourra permettre de répondre à certaines questions sans forcément passer par les modèles animaux.
Juste pour qu'on se fasse une idée de la volumétrie d'un équipement comme ça, bon, la puce, comme son nom l'indique, c'est pas bien gros, mais tous les appareils annexes, ça peut quand même prendre du volume, je suppose. Ça se fait pas...
Alors, tout dépend de la dimension de la puce. Alors, en général, une puce, ouais, c'est environ 5 mm par 5 mm hein, sur des micro-organes, juste pour un organe. Alors, les puces sont vraiment extrêmement petites. On les miniaturise, c'est de la micro-fabrication. Hein. On travaille avec des équipes d'ingénieurs en fait, qui vont faire de la micro-fabrication, un petit peu comme les micro-processeurs d'ordinateurs.
On voit bien les...
Alors c'est vraiment minuscule. Après, effectivement, il y a un appareillage, il y a tout un système de pompe derrière hein, qui doit faire circuler le flux et tout un système de mesure aussi parce qu'on va mesurer un petit peu tous les éléments présents dans ce fluide. Et là, ça peut prendre de la place. Alors, les appareils, globalement, sont raisonnablement petits. Ce qui prend de la place, c'est tous les tubes. Toutes ces centimètres ou mètres de tuyaux qu'on a autour des chips qui peut être un peu encombrant. Ouais.
C'est sûr que les fluides et l'électricité, c'est pas exactement pareil. Hein. On ne peut pas tout miniaturiser. Jim, en tant qu'auteur, et puis même en tant que personne, toutes ces nouveautés, ça t'évoque. Qu'est-ce que ça peut t'évoquer en tant que client, par exemple, de cette technologie?
Yeah, we were talking before the panel. I've been diabetic for 20 years now. So my first question is, okay, great, you make livers, you make guts. Where is my pancreas? I love hearing about this. You know, I love the idea that, you know, that you are so close to being able to regrow even just those little islet cells that manufacture insulin. You know, it's a small part of the pancreas, but being able to regrow that and also being able to see now how is this going to interact? You know, before we stick this in your gut, let's test and see what will it do to your liver? What will it do to your thyroid? What will it do to your eyeballs? I don't know. I love, it's very exciting, we'll put it that way. And then there's also the science fiction part of me that is just running with this, that, oh, we have these organs on a chip and now they're talking to each other on other chips. How long before we can make teeny tiny chip people? You know, and maybe we can't do the brains on a chip, but all of the other parts, and I'm seeing, 20 years from now, sort of a Lego style, build your own creatures. And maybe I want to make a six-legged dog that has three livers and lots of guts. Which also makes me wonder, are there ethical questions that you're worrying about with all of this? Are there ways that this could go too far?
Je pense que c'est effectivement une excellente question hein, sur la partie éthique. Alors actuellement, on est vraiment sur des étapes préliminaires. C'est-à-dire qu'on est capable d'interconnecter certains organes qui ont une fonction particulière. Et vraiment, c'est fait dans un but d'études fondamentales et probablement aussi d'études de réponse de ce patient, au final, de cet homme sur une chip, à certains médicaments. Donc c'est un petit peu l'idée générale. Après, effectivement, si on devient extrêmement doué dans la fabrication d'un mini-homme, hein, comme tu dis, hein, sur une chip, et tu parles du Lego, c'est rigolo que tu mentionnes ça, parce qu'il y a des équipes aux États-Unis qui ont développé ce qu'ils appellent les Lego chips, en fait. Ce sont des micro-puces en Lego qui s'emboîtent les unes aux autres. Donc, effectivement, ça paraît fou, mais c'est vrai que sur des scénarios vraiment très très long terme, on peut imaginer peut-être l'avènement d'un organe, enfin d'un organisme complexe qui puisse être autonome. Et là, la question se pose effectivement dans quelle mesure on peut développer tel type d'organisme sur une chip. Et ça, ce sont des questions qui sont totalement ouvertes. Et c'est vrai que tout le champ d'investigation autour des chips est très très jeune et l'avènement de l'éthique autour de ça est en train de se développer.
Tout à fait. Et en plus, donc pour le côté éthique, en fait, il y a la promesse d'avoir des modèles qui permettraient de ne pas utiliser des animaux donne une espèce de bon point éthique pour justement le développement de ces techniques, mais il va falloir aussi penser aux contreparties et jusqu'où on peut aller. L'autre chose, c'est que effectivement, il y a le côté Lego où on peut commencer à construire plusieurs architectures pour faire différentes études, mais en plus de ça, on part de cellules iPS, donc ces cellules souches qui viennent de patients. Donc on peut avoir des génotypes différents. Donc on peut avoir des puces qui viennent d'une personne et puis remplacer avec une autre personne qui a telle mutation et mettre une autre personne qui a telle mutation et de voir quel est l'effet de ces mutations sur cet organe dans un contexte normal ou dans un contexte pathologique. Donc il y a plein de niveaux auxquels on peut commencer à vraiment de mettre en place ces études auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à maintenant.
And just to be clear, for the record, I am all in favor of you taking a bit of my skin and growing me a new pancreas. So I'm good with that.
Oh, we can do it with your urine.
I may have an objection to having a pancreas made out of urine, but we can talk.
It's convenient for us.
D'accord pour devenir cobaye d'un de ces deux messieurs, hein, on prend les adresses tout de suite.
I mean, I have known Karim and Maxime for about an hour now, and they seem pretty cool. So, yeah, build me some new parts.
Miam. En parlant de... pas forcément les organes, on a parlé un peu de muscles ensemble et de foie, mais en fait moi je suis assez axé sur l'alimentaire, donc j'étais plutôt en train de parler de la comestibilité du produit. Et je me rappelle Karim que tu avais quelque chose de très intéressant à ce sujet au niveau de la viande, en fait. C'est-à-dire que effectivement on peut produire de la viande artificielle, ça s'est encore vu dès 2013, c'est ça, ça a commencé.
Oui, je crois, oui. Ouais. Enfin, ça, ouais, il y a quelques années.
Mais disons depuis, qu'est-ce qui se passe à ce sujet-là?
Il y a donc là on sort un peu du côté corpus, mais il y a l'utilisation de ces cellules pour essayer d'arriver sur le marché du comestible et le développement d'équivalents de viande à partir de cellules de bœuf.
Ah,
donc l'idée serait de reconstruire du muscle de bœuf pour des fins nutritives.
Et mais c'est pas simplement de l'impression là, parce que le côté nutriment de la viande, ça vient aussi de sa lente croissance dans un milieu riche en bactéries intestinales, par exemple. Ça pousse pas comme ça non plus pour faire.
Il y a l'idée, c'est de faire suivre aux cellules leur développement normal, comme on peut le faire nous, par exemple, sur l'intestin et le foie, jusqu'à ce que ça arrive à une certaine maturité. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire sur le côté maturité, justement, et donc s'approcher le plus possible de la viande comme elle pourrait être chez l'animal. Et une fois qu'on arrivera à ça, je pense que ça va être difficile de distinguer l'un de l'autre.
Alors, du coup, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut imaginer créer de la nourriture, au final, à partir de ces cellules. Mais en termes de prix, parce qu'on sait que toutes ces technologies, en fait, sont extrêmement coûteuses.
Oui.
Est-ce que c'est...
Alors, il y a des gens qui... Donc, il y a des labos qui essaient vraiment de développer des process pour pouvoir... je pense que l'idée, c'est de faire en grande quantité pour justement amortir les prix et avoir quelque chose qui vienne accessible et qui ne soit pas un produit de luxe.
Parce que pour info, le premier steak artificiel comme ça a coûté, c'était dans un burger, et il coûtait $250,000. Ça fait un peu cher. Et d'après ceux qui ont dégusté, on était assez loin de la texture du steak. Ça ressemblait plus à de la gelée, donc il y a encore du travail. Hein. Bon, mais là encore, on aiderait peut-être la cause animale, on ne sait jamais. Mais par contre, pour la culture des cellules, on n'a pas besoin de produits animaux.
Alors, le premier steak qui avait été fait, effectivement, il y avait c'est quelque chose qui est utilisé en culture, en biologie, dans les laboratoires de recherche fondamentale. C'est du sérum de veau fœtal. C'est pas ce qu'il y a de plus appétissant. En fait, nous, pour la culture des cellules iPS, on utilise un environnement qui est complètement défini, donc il n'y a pas d'apport d'éléments exogènes type animal qui ne soient pas définis. Il n'y a pas d'apport d'éléments animaux directement pour la culture. Tout est très défini, en tout cas nous, quand on l'applique pour nos cellules. Je pense que c'est ce type de procédé qui est en train d'être installé pour ce type d'activité.
Jim, je crois que vous aviez...
My mind has been going with the possibilities and what else can we do with our Lego people. And it sounds like a lot of what you're doing with the chips is you're testing interactions. You can use it to test the effectiveness of drugs, the effectiveness. And it got me wondering, you know, how well this would work for things like organ rejection to test whether or not this would happen. And from there, I wanted to know if you could use these chips to figure out how to give me a monkey tail. At what point can we start modifying the human body and using these chips to test which parts will be compatible, what's going to work? And monkey tails are cool.
I think, yeah. Well, en fait, je pense qu'il y a différents... On peut penser à différents scénarios. Le premier, c'est effectivement créer une puce qui contient un organe qui va remplacer une fonction qui est déficiente dans votre organisme. On va te faire une puce pancréas, on va la mettre à la place de ton pancréas déficient pour soigner la pathologie. Donc c'est quelque chose qui peut être envisagé, si fonctionnel, comme un remplacement d'organes, mais je ne pense pas qu'à ce stade, alors c'est mon avis, hein, qu'on puisse justement ajouter une fonction particulière, enfin du moins une fonction morphologique à un individu. Ceci étant, avec ces cellules qui sont souche ou pluripotente, pourquoi pas créer des organes différents, alors c'est de la science-fiction, hein, et les réimplanter dans l'organisme.
So you could theoretically, you could give me eyes in the back of my head.
Là, ce serait compliqué. Il faudrait brancher l'œil au niveau du cerveau et que le cerveau ait tout le territoire nécessaire pour analyser le signal optique et
Ouais, c'est ce que je dis toujours, le cerveau est un problème.
Esthétique peut-être.
Ouais, le cerveau est un problème, pas une solution. C'est ce que je dis toujours. Mais par contre, s'il y a un petit point qui peut être intéressant, niveau, est-ce que ça peut, ces puces peuvent servir d'interface homme-machine, par exemple? Est-ce qu'on peut tirer des informations de mon corps à partir d'une puce qu'on m'aurait implantée, de ce type de puce? Ou est-ce que là, je suis en plein délire, je ne sais pas.
Alors, il faudrait peut-être préciser un peu la question, parce que, par exemple, dans nos cas, donc on a des activités hépatiques ou intestinales pour lesquelles on peut mesurer un certain nombre de paramètres. Donc, oui, il y a une interface puce-machine, parce que de toute façon, il y a des signaux qui vont être traités, analysés en aval, et qui peuvent être même faits en live. Donc pendant un laps de temps déterminé. Donc il y a une interface qui est faite comme ça. Ensuite, si on est plutôt sur le côté neuro, là je ne sais pas trop, je pense que peut-être Maxime, parce qu'il y a côté neuro, système nerveux entérique, pour lequel là il y a vraiment un accès computer qui peut être exploité.
Je pense que alors là, on sort peut-être du domaine de la micropuce, hein, de l'organ on chip. Donc
on y reviendra.
On y reviendra, mais si on diverge un petit peu, enfin, en tout cas dans les systèmes on chip actuels, on est capable de mettre des sensors, des biosenseurs, et aussi des arrêts, hein, des arrêts électriques, hein, qui nous permettent justement de faire du monitoring de la. Alors dans le cas des neurones ou des mini-cerveaux, on est capable de voir les influx nerveux, on est capable de les mesurer, et on est capable de mesurer tout un tas de choses, hein, le taux de glucose dans le sang, enfin beaucoup de molécules. Et dans ce contexte-là, appliquer ces sensors dans l'organisme, hein, il en existe, hein, on peut les ajouter à une machine. Alors la plus simple, ça serait un smartphone, hein, et on... Ces sensors en fait communiquent en permanence les données biologiques de la personne et vous pouvez la regarder en temps réel. Donc c'est du monitoring qui aujourd'hui n'est pas fou puisqu'il existe pour certains types de d'applications.
Ok, donc la prochaine Apple Watch, hein, on pourra se l'implanter dans le poignet pour pouvoir avoir son rythme cardiaque, mais aussi son taux de sucre et son taux d'adrénaline, quoi.
Exactement.
Ouais. C'est dégueulasse. Non, franchement, j'espère que personne n'aura l'idée. Mais en tout cas, gardez-la pour vous. Hein. Est-ce que, niveau application, donc on a parlé de l'alimentation, enfin de créer du muscle, créer éventuellement une queue de singe pour gym. Est-ce qu'il y a des... Oui, voilà. Oui, ok. Bon. Et est-ce que vous auriez encore quelque chose que nous, auteurs de SF, on n'aurait pas encore imaginé? Parce que là, pour l'instant, vous, honnêtement, moi, je ne suis peut-être pas assez auteur de SF, mais vous me dépassez un petit peu au niveau conception et concept.
C'est une réflexion. Enfin, il y a une réflexion que j'ai eue généralement quand on aborde des sujets comme ça, un peu science. On essaie d'avoir une allusion sur des œuvres de SF littéraires, filmographiques. Et j'ai eu du mal à trouver en fait quelque chose qui est lié à ce type de développement. Et c'est là où ça m'a fait penser que il y a des dans la façon de voir la SF, il y a ce côté très abouti où on saute plein d'étapes pour arriver à quelque chose qui sort de l'ordinaire et du contemporain, et voir un peu, souvent la mode actuelle, c'est les effets sociétaux de cette nouveauté. Et nous, en fait, on est un peu dans les étapes intermédiaires, à essayer de, ok, pour répondre à cette question, il faut arriver d'abord à ce comment le modèle peut être adapté pour pouvoir arriver à ça. Et donc, du coup, il y a une espèce de peut-être de complémentarité où des fois la SF permet de se projeter pour se dire ah ouais, ça serait un but à atteindre ou un truc à essayer de pousser vers ça, et puis on peut aussi avoir nous des développements qui peuvent ensuite générer des idées pour la SF et avoir un autre angle ou une autre approche pour des histoires fantastiques.
Ouais, Jim, outre vos modifications personnelles, ça vous donne des idées pour votre univers plein de zombies modifiés?
it's giving me ideas, yes. One of the things I love about science and about talking to scientists and people who are much smarter than I am is all of the possibilities. And it's not just things that I'm making up. It's possibilities that, hey, we can really do this. We can really take these little chips and use it to test and build organs or mini organs on the 3D printer. That knowledge, that insight that this is really possible, makes science fiction so much more exciting for me. As I'm sitting here thinking about my zombie space janitors, I'm also thinking, you know, what sort of models did the aliens use when they were trying to fix us? Did they try to give us tentacles? Because tentacles are so much better than these sticks. And then the different ways that they would have, because most of the humans, they're using them as soldiers. So how do you fix your soldier after it gets shot? Well, we make new parts, we stick them on. And so far, the replacement parts, they're so-so. They're sort of a blend of biology and technology. One of the characters has an artificial arm, and the arm has limited artificial intelligence. And sometimes the arm has different ideas about what it's going to do. And poor Monroe is sitting here having a pleasant conversation, and the arm has decided, I don't like that guy. I'm going to hit that guy. You go on talking. I'm going to hit him again. No. I've gotten off topic and gone on to hitting you. Sorry about that. But coming back, it opens up more possibilities, more things that I can play with that, you know, what sort of alien chips are they using? What sort of tests are they running? How are they building these limbs, these extra parts, all of these new guts? You know, and it does make sense. They could have a 3D printer, you know, beyond what we have now and much closer to what they had in the Fifth Element, that we just, okay, print out 200 meters worth of intestines. Because this guy took a grenade, he's going to need all of them. Yes, absolutely. I may have to name a character after you guys, depending on what I use.
Merci. Mais c'est vrai que, en tant qu'auteur, j'ai remarqué aussi que plus j'en sais sur le détail technique, meilleur est le résultat. Moins j'invente et puis plus c'est fantastique en fait. Donc merci pour la leçon là. Ça va vraiment ouvrir l'esprit s'il y a d'autres auteurs dans la salle. D'ailleurs, en parlant de la salle, je pense que vous avez peut-être quelques questions à poser également de votre côté. On est un petit peu quand même dans des technologies nouvelles. Est-ce que le public une question pour nos scientifiques ou notre auteur? Soyez pas timide. Enfin, Jim peut tenir encore des heures, hein, il vous l'a dit, donc si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave. Hein.
Yes, we are writers, we get paid by the word.
Ouais, parlez pour vous. Non ? Ah si, quelqu'un là-bas.
Ah, bonsoir. J'ai raté le début de la conférence, mais quels sont les moyens de maintenir vivantes les cellules sur les chips ?
Les moyens sont divers. Le premier moyen qu'on utilise, qui est assez classique au final, hein, qui dérive un petit peu des années d'expérimentation sur les cellules en laboratoire, sont les milieux de culture. Donc, c'est des milieux qui sont définis, enrichis en glucides, protéines ou lipides, hein, et qui nous permettent justement de maintenir le renouvellement cellulaire ou la division cellulaire. Mais on utilise, notamment avec Karim, des approches où on va beaucoup mettre en valeur, si je puis dire, la cellule souche. Et on va utiliser la capacité de la cellule souche en fait à renouveler un petit peu l'organe. Alors c'est le cas de l'intestin, hein, qui se renouvelle en permanence. Hein. 3 à 5 jours, vous développez un nouvel intestin. Hein. Tout l'épithélium digestif est renouvelé. Et c'est en maintenant cette capacité souche, en, en sachant quelles indications vous devez donner à la cellule, que vous pouvez justement maintenir ce cycle et en gros reproduire une physiologie normale.
Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est Maxime travaille sur le développement d'organoïdes intestinaux. Moi, un petit sur le foie. Et en fait, pour maintenir ces cellules ou ces organes en culture, on utilise des milieux de culture, mais qui vont être différents. Donc, j'ai un milieu avec telle spécificité pour les cellules de foie qui va être différent de celui d'intestin. Et si on veut mettre ça sur une puce pour pouvoir les connecter entre eux et les faire discuter, il faut qu'on trouve un milieu commun. Et donc, dans l'organisme, on a le sang. Alors, reproduire le sang in vitro, c'est très compliqué. Donc il y a une recherche là-dessus sur comment trouver un vecteur entre ces différents organes et puis même d'autres organes pour pouvoir les maintenir et faire en sorte qu'ils ne soient pas perturbés par la nature même du milieu.
Une autre question ?
Oui, bonsoir. J'avais une question à propos de l'adhésion des cellules, parce que vous dites là que vous avez des cellules qui vont se renouveler. Qu'est-ce qui va se passer avec les cellules qui n'adhèrent plus sur le support ? Comment est-ce que vous allez faire le tri avec votre liquide dynamique passant et vos capteurs ? Est-ce que ça bouge pas tout, le circuit ? Voilà.
Alors, c'est une excellente question. C'est un point technique majeur au final. L'exfoliation cellulaire de toutes les cellules mortes. Donc, c'est la magie de la microfluidique. Hein. On perfuse un milieu, donc on est sur une extrusion dynamique des cellules. Donc après, on est capable en fait de créer des trappes cellulaires au final. Donc, la cellule qui va diffuser va tomber dans un récipient de déchets. On a un filtre en dessous en fait qui récupère que le milieu et qui rediffuse un milieu sans cellules, sans matériel cellulaire.
D'autres questions ? On a encore 10 petites minutes.
Est-ce que vous pensez que ce type de technologie permettront à terme de reproduire des organes complexes comme le système reproducteur ou ce genre de choses, ou c'est complètement impossible ?
Non, là en fait l'idée c'est vraiment d'avoir des systèmes miniaturisés qui nous permettent de modéliser les interactions et puis éventuellement la métabolisation de médicaments ou étudier une pathologie. On ne va pas être dans la formation de l'organe lui-même, avec la taille de l'organe tel qu'il est au niveau de l'organisme. Alors pour ça, il y a d'autres approches qui se font, qui sont aussi très intéressantes. C'est utiliser Mère Nature comme modèle. Et donc pour ça, c'est par exemple, pour revenir sur le foie, et ça se fait aussi sur le poumon, le rein et d'autres organes, on peut en fait prendre l'organe et le décelluliser. C'est-à-dire on le met en flux et on passe un produit qui va permettre d'enlever toutes les cellules de l'organe et on va garder l'espèce de squelette protéique qui tient les cellules entre elles dans l'organe. Et ce squelette protéique en fait a une composition particulière géographique, une architecture très précise. Et donc on peut ensuite amener de nouvelles cellules, par exemple les cellules qu'on produit à partir de cellules iPS avec un génotype particulier. On amène des cellules, des hépatocytes, des cellules de foie majeures, des cellules endothéliales pour l'arbre vasculaire, d'autres types cellulaires, et elles vont trouver leur niche en fonction de la nature des protéines du squelette. Et elles vont se positionner dans cet environnement spatial et essayer de reformer l'organe tel qu'il pourrait être initialement. Et là, vraiment, on arrive sur des organes avec des tailles conséquentes. Et c'est des stratégies qui sont mises en place, notamment pour... l'une des visées, ce serait la transplantation, mais on est encore loin de ça. Par contre, ça permettrait de maintenir des patients en attente de transplantation pour pallier les fonctions défaillantes. Et ensuite, dès qu'un organe réel arrive, pouvoir effectuer la transplantation.
Une question de monsieur, il y en aura une autre après.
Oui, bonjour, merci pour cette table ronde. J'avais une question, c'est sur cette puce où c'est le sang ou un équivalent qui met en contact les différents organoïdes, où vous placez le système nerveux si on arrive à le placer ?
Alors, ça c'est excellent. C'est très 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 bonne question. C'est vrai que c'est là on est dans le principe d'un organisme complètement déconstruit. Donc c'est vrai qu'on comme un Lego, hein, on va venir placer différents organes. Donc on est obligé au final de complexifier ces puces une par une. Alors je prendrai l'exemple de l'intestin. L'intestin a ce qu'on appelle le second cerveau. Il est complètement innervé et totalement autonome. Et créer une puce en neurones, en fait, avec un intestin est pas physiologiquement relevant, en fait. Donc on est obligé justement d'ajouter ces cellules. Donc on est capable de créer des systèmes complexes qui mélangent deux types de tissus, donc un tissu intestinal qui va reproduire le système gastro-intestinal et des neurones. Après, sur une autre facette, on est capable aussi de générer certaines parties cérébrales, donc certains types de neurones du cerveau. La grosse difficulté, c'est de les connecter, parce que ce n'est pas du câble électrique. Hein. Il faut justement trouver des moyens. Alors là, c'est ce que redisait, je rebondirai un peu sur ce que disait Karim, hein, sur utiliser un petit peu toutes nos connaissances que Mère Nature nous a apportées, hein, qu'on a étudiées au cours de ces années de biologie, au final, où on peut reproduire justement ces connexions électriques, hein, qui existent dans notre organisme, hein, par le système nerveux périphérique, et les implémenter en fait dans ces puces. Donc c'est une possibilité effectivement pour pouvoir avoir un organe complexe et innervé.
Et pour rebondir, si on regarde la puce comme elle est ici, en fait, on peut la faire à façon. Donc on peut vraiment, c'est un matériau spécifique pour eux qu'on peut couler et qui va durcir. Et en fait, on peut vraiment l'agencer de la façon où on veut. Donc on peut faire en sorte, par exemple, d'avoir un organoïde avec des petites travées qui vont l'entourer et mettre des cellules nerveuses autour qui vont utiliser ces travées pour guider la croissance axonale vers l'organe. Donc il y a toute une géométrie qui peut être faite. Et en fait, on communique énormément avec les ingénieurs pour nous expliquer ce qu'on aimerait faire et eux font le lien avec la faisabilité réelle.
Je crois qu'il y avait une question par là aussi. Allô ?
Je me pose la question. Si on arrive à reproduire les organes sur ces chips, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer aussi de les améliorer ? Vu qu'on reproduit à la base, et c'est pas une version.
C'est une excellente question. Je pense que vous amenez un petit peu aussi le terme d'un organe augmenté au final, hein, qui a des fonctions supérieures à celles qui sont nécessaires au fonctionnement d'un organisme. Aujourd'hui, nos connaissances sur les différents organes nous permettent de connaître des fonctions qui sont activé de plus ou de façon différente, hein, suivant l'environnement, suivant l'événement dans lequel vous êtes. Conceptuellement, on peut imaginer effectivement activer des voies de régulation de l'organe qui soient supérieures, on va dire, hein, qui peuvent, je ne sais pas, on va prendre le cas de l'intestin, hein, si vous avez besoin de digérer des types de nourriture inconnues à présent, peut-être trouver un moyen d'adapter cet intestin à une utilisation de nourriture alien, on va dire, pour pouvoir fonctionner. Ouais. C'est une possibilité, ouais.
So, you were going science fictional. I was thinking real world applications for this one. But you could theoretically design intestinal cells that could maybe digest plastics or other waste products.
Alors, ça c'est une question relativement complexe. On a tous un génome, on a tous des gènes en fait qui vont exprimer certains mécanismes qui vont nous permettre justement, pour nous êtres humains, être capables de digérer de la viande ou des légumes ou autres. Ça serait possible si on a justement cette fonction disponible dans la cellule. Si notre organisme nous rend capable justement de pouvoir digérer du plastique pour l'instant. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on soit équipé d'un mécanisme qui nous permette de digérer du plastique. Cependant, et ça c'est une possibilité, par les techniques d'ingénierie du génome, introduire des gènes qui soient capables de produire un système de mécanisme de digestion.
Donc on peut imaginer, si dans un espèce... dans un délire un peu de science-fiction, de se dire, ok, on fait la découverte d'un organisme qui a toute la machinerie enzymatique pour pouvoir dégrader du plastique et en faire de l'énergie. Et donc on séquence l'organisme en question, on voit le type de gènes qui sont impliqués dans ces mécanismes, et on peut les cloner, les mettre dans un vecteur et les introduire dans des cellules intestinales en chip, tester ça et avec des technologies par exemple comme les CRISPR, intégrer ça dans le génome des cellules et voir si les cellules vont effectivement refaire cette nouvelle fonction découverte.
Remind me when I get home, I will send you some cell samples of our dog because she eats anything.
On a encore une petite question, monsieur.
Bonsoir. Ma question était de savoir si vous avez testé cette puce sur de vrais patients humains, et donc est-ce que ça a permis de vraiment soigner des vies humaines, ou pour l'instant ce n'est qu'un projet pas abouti?
Alors, ces puces à l'heure actuelle sont extracorporelles, donc on les utilise pas chez le patient. Donc elles sont utilisées vraiment pour de l'étude à l'heure actuelle en biologie, hein, pour de l'étude de mécanismes ou de pharmacocinétique. On va regarder la toxicologie de certains médicaments, de certaines drogues. Donc elles sont utilisées dans ce contexte-là. En revanche, juste pour rebondir sur des systèmes microfluidiques ou un peu organ-on-chip, je pense que vous en connaissez un, qui est la dialyse, au final qui n'est qu'une émulsion d'un système microfluidique, au final, où on fait passer le sang au travers d'un système de filtration qui n'est autre qu'un rein artificiel. Donc ces systèmes, au final, existent déjà, on cherche juste à les miniaturiser et à les rendre beaucoup plus efficaces. Donc, pour répondre à votre question, pour l'instant, on n'implante pas ces chips, hein, sur des patients, mais ils pourraient potentiellement être utilisés en organes supplémentaires ou en organes de soins.
Donc là, il y a vraiment un gros développement, et parce que le modèle est toujours en train d'être perfectionné, en fait, ça n'arrête jamais, quoi. Des fois, ça donne un peu le tournis, mais on est toujours sur améliorer le système pour être le plus proche de la condition physiologique et d'avoir des modèles d'études, soit de comprendre la pathologie ou de tester des molécules pharmacologiques. C'est toujours en plein essor, et c'est vraiment, pour l'instant, il y a une grosse part d'académique, de recherche académique dans ce domaine.
Oui, j'ai pu voir qu'en publication, la microfluidique en fait 4 fois plus par an, et avec une tendance très ascendante, que la microélectronique, par exemple.
Peut-être que ça rejoindra après les systèmes, ouais, la microélectronique.
Oui, quand après on a fini de faire le tour de la question, on reviendra à un palier raisonnable. Mais pour l'instant, c'est en plein boom.
Mais en tout cas, de notre point de vue, ce qui est vraiment sympa, c'est que ce type d'approche, en fait, permet de... La liaison entre la biologie et le côté physique et ingénierie, et donc c'est vraiment des expertises maintenant qui commencent à se retrouver et qui un peu explosent dans la thématique de développement de modèles.
Bon, il nous reste une minute si quelqu'un a une question qui tient dans le format. J'ai confiance. Prenez le monsieur, et après il faudra prendre du souci, comme on dit chez moi.
Oui, bonjour. Est-ce que, parallèlement à ces modèles-là, il y a aussi des modèles numériques qui pourraient être utilisés parallèlement? Parce que je crois, par exemple, pour le Human Brain Project, il y a des modèles numériques des neurones. Est-ce que c'est concurrent ou complémentaire?
Je pense que c'est complémentaire. Il y a effectivement une modélisation in silico qui se met en place pour essayer d'avoir en prenant toutes les informations qu'on a du vivant et du vitro, avoir une espèce d'émulation informatique de ces phénomènes. Et il me semble que ça se fait aussi énormément pour le cœur, avec toutes les activités électriques cardiaques, et essayer de mimer l'effet d'arythmie sur le fonctionnement cardiaque et les différentes fonctions cardiaques.
Eh bien, en tout cas, merci à tous pour cette belle introduction de la microfluidique. Maintenant, on est quand même une petite centaine à savoir ce que c'est, ce qui n'est pas rien. Bon, je vous invite à aller voir Jim demain pour faire dédicacer ses livres qui ont l'air très drôles. D'ailleurs, on va se voir. Je pense que je vais dépenser des sous. Merci au public d'être venu et merci aux traducteurs. Désolé pour le petit cafouillage du départ. Ah, Jim a un petit...
I was just going to also thank the interpreters because you know, translating day-to-day speech is hard enough, but translating what you guys were saying, I am impressed. Thank you.